grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. Nous sommes lundi 7 juillet 2014. Bonsoir et bienvenue. L'orpaillage fait encore parler de lui. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les orpailleurs de Kangaba auraient fait des morts. La semaine dernière, des morts des deux côtés. Kangaba est une ville située à 85 km de Bamako. Pour l'heure, les motifs des violences restent assez flous. Certains responsables avancent des mesures interdisant l'orpaillage sur 6 mois. En début d'émission, nous ferons le point de la situation. La question du statut des orpailleurs au Mali sera également débattu et nous finirons sur les solutions à court, moyen et long terme. Nos invités, Lassana Guindo du ministère des Mines, Sidiki Camara qui est en cours de route, 3e adjoint au maire de Kangaba, professeur Abdoulaye Nyang, économiste et chercheur. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la mise en onde. Alors, Lassana Guindo, vous êtes conseiller technique au ministère des Mines. Que s'est-il passé cette fois-ci à Kangaba?
Merci. Le mercredi dernier, 2 juillet, nous avons été informés de déchets forés au niveau de, du site minier de Kobada. Kobada, c'est un permis de recherche qui est détenu par une société d'origine canadienne, du nom de African Gold Group. Ils sont là-bas depuis plus de 10 ans. Donc, ils sont en phase de recherche très, très avancée. Prévoient même de conduire une étude de faisabilité pour l'exploitation d'une mine. Il y a déjà quelques temps qu'il y avait eu des petits problèmes entre les deux parties, c'est-à-dire Opayeur et la société, que nous sommes arrivés à circonscrire. La société elle-même était venue à dégager une partie de son permis qu'elle avait mis à la disposition de ses orpailleurs pour qu'il y ait vraiment la bonne cohabitation, la bonne entente. Mais nous avons été informés le 2 juillet dernier de cet incident malheureux je dirais, où il y a eu cas de mort d'homme et des blessés de part et d'autre. Nous déplorons vraiment fortement cet acte.
Alors, peut-on connaître les motifs?
Les investigations sont en cours. L'opinion sera informée le plus tôt possible vraiment sur les résultats.
Okay. Alors, des affrontements qui vont jusqu'à faire des morts d'hommes. Professeur, pouvait-on éviter cette situation? Abdoulaye Nyang.
Oui, il est possible de les éviter. Vous savez, le gouvernement est en charge de la stratégie de stimulation du développement économique et social. Et la stratégie de sécurité. Mais ce rôle du gouvernement est mal compris de nos jours.
Par qui?
Par les responsables politico-administratifs. Quand devant les députés, le ministre de la Sécurité, dans une interpellation du chef du gouvernement, dit que l'insécurité dans les communautés de localité est due à l'envahissement des sites miniers par les populations, ces communautés, et qui vont utiliser la force, c'est irresponsable. Moi, je suis un chercheur, mais aussi c'est de la société civile. J'appartiens à une communauté de localité. Et on prend un arrêté pour interdire l'orpaillage pendant 6 mois. Des gens qui vivent d'orpaillage, si vous interdisez leur accès à leur source de subsistance pendant 6 mois, l'annonce seulement de ce message, parce que le ministre Boubou Cissé est clair, la sécurité des sites miniers est totale. Mais avant que les permis soient donnés, qui avait le droit d'usufruit sur les terres? Ce sont les communautés de localité. Et Maître Bachili a été très clair là-dessus, le ministre de la Justice récemment. Donc il est très important de comprendre que d'abord le droit était aux populations. Et que quelque part, on s'est assis dans un bureau, tout le Mali est divisé en site minier. Kenyeba, il y a même des entreprises qui ont 600 km². Ce n'est pas possible d'éviter une telle chose. Et quand l'arrêté est sorti, le conseiller peut le dire, Nous avons été alertés par des populations, parce que ces populations des 11 cercles des 3 régions, nous les avons formées à la citoyenneté, ne jamais attaquer une propriété. Donc je regrette d'avoir l'attaque de l'usine, mais aussi je présente les condoléances à toutes ces familles-là, et que nous interpellons nos communautés de localité de ne jamais faire des attaques. Mais l'enquête qui est en cours, elle est menée par qui ? Elle est menée par les gendarmes. Qui était en affrontation avec la population, c'était les gendarmes. Et nous avons, nous aussi, nos réseaux, parce que nous avons un capital de confiance dans ces communautés de localité. Ils nous ont informés de la raison du détonateur. Eh bien...
Quelle est cette raison ?
On peut vous le dire, mais elle va être vérifiée peut-être ailleurs. À Kenyawa, c'était évident aussi, à Dijan. À Dijan, quand on dit qu'il ne faut pas aller sur le site minier, les gendarmes se mettent d'accord avec les orpailleurs pour exploiter la mine la nuit en raison de 100 000 francs par nuit. Et ici aussi, les gendarmes qui vont, ils savent que c'est une position de rente pour s'enrichir et pour enrichir d'autres qui sont à Bamako ici, ce qui les affecte là-bas. Donc ils ont demandé probablement à négocier comment ils peuvent avoir accès à travailler malgré l'interdiction. Et ils ont dit qu'il y a un arrêté qui est là. Donc si c'est ça, si on ne s'entend pas, voilà l'arrêté. Il y a des informations qui vont dans ce sens-là. Donc il vaut mieux qu'ils ajoutent à leur enquête. Parce que normalement, on aurait dû associer d'autres indépendants pour faire une enquête qui soit balancée.
Alors, Sidiki Camara, vous êtes maire de Kangaba, troisième adjoint au maire, si je ne m'abuse.
De Nouga.
Ok, de Nouga. Alors, Kangaba, c'est pratiquement 18 000 habitants. Est-ce que c'est uniquement ces habitants-là qui mènent des activités d'orpaillage sur le site, ou bien il y a d'autres personnes qui viennent en renfort?
Ok, et effectivement, il y a d'autres populations qui viennent en renfort. Il y a des Burkinabés, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens, il y a des Maliens aussi. Et pratiquement tous les pays limitrophes ont des ressortissants qui viennent chercher de quoi survivre. À cela, ça s'ajoute, cette population halogène s'ajoute aux autochtones. Et au stade actuel des choses, on peut dire qu'il ne reste que des autochtones, parce que tous les halogènes sont partis.
Alors, on vient d'évoquer les événements, les malheureux événements qui sont survenus à Kangaba. Mmh. Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter cette situation?
Oui, je dirais que, avant de rentrer dans la genèse des choses, je voudrais m'incliner devant la dépouille mortelle des gendarmes, aussi bien que de nos administrés. Je présente mes condoléances les plus attristées des morts des deux côtés, du côté des gendarmes aussi bien que du côté de notre population, et souhaiter prompt rétablissement aux gendarmes qui ont été blessés et prompt rétablissement à nos administrés, à nos populations civiles. Et je dirais tout simplement que je vais prendre un langage un peu plus simplifié. Gérer, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Et tous nos décideurs doivent comprendre le sens de ce que ça veut dire. Gérer, c'est prévoir. Quand on joue ce que je peux appeler la politique du pourrissement, parce qu'en fait, c'est la politique du pourrissement que je peux employer ici.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que je ne veux pas rentrer dans la théorie. Je laisse la situation pourrir et ça va s'arranger de lui-même.
Qui laisse pourrir?
C'est ça que, je dirais, les autorités du pays ont adopté. Adopté pourquoi? Parce que depuis la transition, je ne cesse d'attirer l'attention des uns et des autres par des écrits. Depuis le 11 mai, vendredi le 11 mai 2013, le Mandé n'a pas connu une seule journée de répit. Depuis le vendredi 11 mai, si ma mémoire est bonne, le vendredi 11 mai 2013, jusqu'à nos jours, le Mandé n'a pas connu de répit du tout. J'ai attiré à l'époque l'attention des autorités de la transition, parce qu'on était dans un régime transitoire. J'ai rencontré plusieurs fois le ministre ici. J'ai été reçu par le secrétaire général de la présidence à son temps qui était le ministre...
qui est actuellement le ministre de la décentralisation,
Ousmane Sy. J'ai été reçu par le directeur de cabinet du premier ministre, M. Diankou, à l'époque, avec des écrits et des images.
Mais en somme, quelle situation prévalait ?
C'est pour que je ne puisse pas rentrer dans tout le détail, pour ne pas monopoliser. Mmh. Mais je dis toutes les preuves sont là pour dire que l'État n'a pas su anticiper. J'ai dit toutes les preuves sont là pour dire que l'État n'a pas su anticiper.
Mais qu'est-ce qui se passait sur le terrain depuis le 11 mai 2013 ?
Depuis le 11 mai, vous savez, je ne peux pas dire que, sans être militaire, mais je ne peux pas dire qu'en fait, c'était un bataillon qui était sur le terrain. Parce que si c'était une mission composée de la Légion de Koulikoro avec la brigade de Kati, parce que c'était piloté par le compagnon, le commandant de compagnie, et le commandant de... à l'époque...
Donc c'était des patrouilles ?
Non, c'était pas des patrouilles, mais dans leur cadre d'ordre, hein, je dis bien, dans leur cadre d'ordre que j'ai eu accès confidentiellement, mais j'ai versé au dossier, vous allez vous prendre la tête. C'était 7 200 000 par jour. 7 200 000 par jour.
7 200 000 par 200 jour.
Par jour qui étaient versés à la Légion de Koulikoro.
Par qui ?
Sauf erreur ou omission de ma part. Mais je ne veux pas rentrer dans le secret de ce détail.
Mais par qui ?
En tout cas, il y a quelqu'un qui paye.
Et pour faire quoi ?
Pour maintenir en vie, entre guillemets, ou sinon pour préserver son permis. Bref, on en passe sur tout ça. J'ai crié sur tous les toits. Avant ça, vous savez que les prémices de cet événement-là, c'était quoi ? Le 19 avril, vous savez que c'est en ce moment que le vrai carnage a commencé en réalité. Le 19 avril, tout passé.
Dernier.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en son temps, le haut fonctionnaire de la défense actuel, parce que celui qui était à l'origine du montage même du dossier de Kobada, est parti à la retraite. Il a été remplacé par un autre colonel, et que j'ignore le nom, mais je pense qu'il doit être un colonel aussi.
C'est des mines ?
Oui. L'actuel haut fonctionnaire. Le 3 est parti avec l'attaché en personne du ministre pour aller faire un pseudo-accord avec les clans d'eau. Mais comment vous ignorez les autorités locales ?
Les orpailleurs clandestins
pour aller délimiter un périmètre avec la complicité du géologue de la société AGG, M. Landouré. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Les gendarmes, ils ne connaissent pas les limites. Hein. Il y a plusieurs sociétés minières qui ont des permis, qui s'entrechevauchent. Ils ne connaissent pas. Mais quand le géologue vous dit que non, là où M. Guindou est assis, ça fait partie. Et là où M. Nyang est assis, ça fait partie. Là où même M. Kamara est couché, ça fait partie. Mais on ne va pas chercher de midi à 14h. Hein. On va décarpir M. Guindou, on va décarpir M. Nyang et Kamara, mais on n'a même pas besoin de lui donner le temps qu'il ramasse ses couchettes. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, je dis, la cause, ce n'est pas les gendarmes. Les gendarmes ne sont que la conséquence. Mais la vraie cause, c'est AGG. Et l'auteur principal, c'est l'air géologue qui est sur le terrain. Il a eu en son temps à se tromper, jusqu'à ce que j'en profite pour remercier, entre guillemets, M. Guindou, en son temps, quand il était directeur national de la géologie, a dit, je préfère vous donner un de mes techniciens pour qu'on aille faire des levées GPS pour s'assurer, là où il y a des exceptions, si ça fait partie réellement du permis de AGG. Il y a un hindou qui est là-bas, mine ou quelque chose comme ça, c'était sur son permis. Mais ces derniers étaient obligés de se déplacer pour aller dire, non, écoutez, moi je vais vivre en bonne intelligence avec la population autochtone. Tant qu'il reste dans mon territoire, je n'ai pas de problème. Mais je ne souhaite pas non plus que vous les pourchassez jusque dans mon permis.
Le statut de l'orpailleur, nous en débattrons dans la deuxième partie donc, de ce débat. Tout ceci est intéressant. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Nous avons 20 correspondants dans tout le Mali travaillant dans autant de radios, sans oublier le noyau central, la rédaction du Studio Tamani qui regroupe également une vingtaine de journalistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir les 5 journaux quotidiens. Et le grand dialogue, ce grand dialogue donc est à sa deuxième partie, deuxième volet consacré au statut des orpailleurs du Mali. Nous avons comme invité Lassana Guindo du ministère des Mines, Sidiki Camara, troisième adjoint au maire de Nouga. Voilà, c'est bien ça. Le professeur Abdoulaye Niang également est avec nous. Il est économiste, chercheur. Alors, monsieur Guindo, vous êtes conseiller technique au ministère des Mines. Le statut des orpailleurs, quel statut donne-t-on aux orpailleurs maliens?
Ok, merci. En même temps que la grande mine, c'est-à-dire l'activité industrielle, est reconnue par la législation et la réglementation, également l'activité artisanale est bien codifiée. On ne devient orpailleur qu'en étant détenteur d'une carte d'orpaillage. C'est une activité qui, je dirais vraiment, est très très séculaire, remonte depuis vraiment les siècles les plus anciens. Donc, on ne pouvait s'en passer vraiment de cela. C'est ainsi que vraiment dans le code, c'est une activité connaissant même son caractère, du fait qu'il est très proche vraiment des communautés, cette activité a été transférée aux collectivités locales par rapport à sa gestion. Donc c'est les maires qui délivrent les autorisations par rapport à cela, c'est les maires qui gèrent vraiment cette activité. Donc pour être orpailleur, il faudra être détenteur d'une carte d'orpailleur, cette carte qui est délivrée par les collectivités locales. Donc ça c'est vraiment le statut d'orpailleur.
Peut-il exercer n'importe où?
Non. La loi dit que l'orpaillage n'est exercé que dans les couloirs d'orpaillage. Les couloirs d'orpaillage, c'est des superficies qui sont délimitées par l'administration minière et qui contiennent des potentialités minières et que nous mettons à la disposition des orpailleurs pour vraiment leurs activités artisanales. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons premièrement que l'orpaillage d'abord est sorti de son contexte. Comme je le disais, c'est une activité très très séculaire. Il n'y avait pas du tout eu ce problème. Mais du fait que l'activité est sortie de son contexte, avec l'utilisation de la machinerie, des produits chimiques, donc nous quittons même plus ou moins le cadre même de
artisanal
pour venir vraiment dans soit un cadre mécanisé ou bien la petite mine, qui ne peut être exercé sans l'autorisation vraiment du ministre des Mines. Donc, l'orpaillage pratiqué comme tel est illégal et doit être autorisé par l'arrêté du ministre, du fait que de la manière dont nous voyons l'orpaillage aujourd'hui.
Alors, est-ce que toutes ces règles-là sont respectées, vous qui êtes élu à Kangaba, M. Camara, Sidiki Camara?
Ok, merci bien, mais seulement je voulais attirer l'attention du conseiller technique sur un fait. Hein, il ne faut pas se cacher la face, comme toute activité subit des évolutions. Vous savez que l'orpaillage, certes, a évolué, mais n'est pas sorti de son contexte, mais a subi des évolutions au cours du temps. Parce qu'au temps de Kankoumoussa, on n'exploite pas l'or de la même manière que l'homme du XXIe siècle. Au temps de Kankoumoussa, les sociétés minières n'exploitent pas de l'or de la même manière comme ils le font aujourd'hui. Le distinguo entre ces deux est que les industriels, ils utilisent aussi des produits chimiques. Mais ils ont des spécialistes pour atténuer l'effet, quoi qu'il en soit, l'environnement est agressé des deux côtés. Je dis bien, l'environnement est agressé des deux côtés. Mais plus que l'autre a un lobbying plus puissant que celui qui est du traditionnel, qui fait que même la loi, je parle bien sous le contrôle du conseil technique, hein, quand vous prenez la loi de février 2012, on était dans une situation précaire. Quand vous allez voir même l'évolution de la lecture du code minier, vous savez que c'est deux poumons en réalité. Il fallait faire un équilibre entre les deux activités. Les deux peuvent bel et bien cohabiter, mais qui doit jouer l'arbitre, c'est l'État. Je parle bien sous le contrôle de M. Guindo. Mmh. Vous voyez, en 2013, dans le PIB, le Mali a fait 67 tonnes d'or. 67 tonnes d'or. Sur les 67 tonnes, il y a 47 tonnes d'or qui sont légalement déclarées, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Soit c'est des industriels qui ont essayé de montrer patte blanche. Je dis bien qui ont essayé de montrer patte blanche. Et le reste, 20 tonnes d'or, vient d'où? C'est de l'informel. Et venant de l'informel, on ne peut l'attribuer qu'à l'orpaillage. On ne peut l'attribuer qu'à l'orpaillage. Bon, bref, en tirant le ratio entre les 20 tonnes par rapport aux 47, vous voyez que c'est pas trop loin. C'est à peu près la moitié bis ou sinon plus du tiers de ce que l'autre produit.
Alors, M. Niang, concernant ce statut de l'orpailleur, M. Guindo, qui est chargé, qui est conseiller technique au ministère des Mines, parlait tout à l'heure du fait que l'activité d'orpaillage soit sortie de son cadre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les orpailleurs respectent ces règles-là et se contentent de rester dans le cadre qui est le leur?
Bon, je pense que... En réalité, l'État étant actionnaire minoritaire dans les co-entreprises aurifères, l'État est jugé parti à la fois. Donc, c'est ce qui pose des problèmes.
Comment souhaitez-vous que cela soit géré?
Non, en réalité, un orpailleur ou une communauté d'orpaillage n'a aucun problème pour que le progrès vienne dans sa communauté, pour qu'une mine industrielle, la meilleure au monde, vienne dans sa communauté, mais pas au prix de dépossession de ses terres agricoles et minières. Pas pour le chasser et même déterrer ses morts pour aller ailleurs. Et aller où? C'est ça le problème. Donc quand il parle de sorte de son contexte sur le plan technologique, mais c'est tout à fait normal le progrès. Les mines industrielles, moi je suis descendu à 200 ou 300 mètres dans une mine industrielle à Loulo-Gounkoto, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Donc le progrès technologique, on ne peut pas dire que nos populations... qui ont été dépossédés de leurs terres agricoles et minières et qui n'ont pas été autorisés à être actionnaires dans les mines industrielles. On ne peut pas l'interdire d'utiliser le détecteur. On ne peut pas l'interdire d'utiliser les cracheurs. Ils font partie de technologies d'orpaillage dans d'autres cieux. Mais il y a d'autres problèmes. Et puis, quand il parle de couloir, le couloir, on a fait une réunion, il y avait plus de 100 participants venant des trois régions sud-ouest du Mali. Le ministre est venu. Il a envoyé d'abord un de ses conseillers, qui n'est pas Guindo, pour venir défendre le couloir. Les populations ont dit non. Le ministre est venu lui-même à la clôture. C'est une réunion qui a été organisée par nous.
L'association du Gounimaya
et le Centre Sénégalais du Stratégique. Et j'ai lu le rapport. Le ministre dit que ce n'est pas possible. Le couloir, c'est le couloir. Mais en réalité, le ministre est beaucoup plus industriel. Mais quand il y a l'industrialisation au détriment de ta propre population, de ton propre État, et qu'aujourd'hui même, la Banque mondiale vient de dire que ce n'est plus tenable, qu'il faut la prospérité partagée, il faut la croissance économique inclusive, il faut le capital inclusif. Je ne sais pas pourquoi on va continuer encore à défendre un modèle économique qui est désuet, qui a été rejeté déjà même par ceux qui nous ont imposé ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, en réalité, l'orpaillage qui est en dehors de son contexte, c'est celui qui est pratiqué par les Burkinabés, mais qui sont aussi, ils ont leurs complices à Bamako ici, parmi les ministres, les responsables, ceux qui décident. Ils cherchent de l'or et ils se le partagent. Eux, ils détruisent totalement l'environnement. Fametal, qui est une entreprise chinoise, elle détruit complètement le fleuve. On a tout fait pour que les ministères concernés, environnement, sécurité, ils n'ont pas pu. Et nous, on a dépensé de l'argent nous-mêmes pour aller les prendre et les amener au tribunal. Mais ce n'est pas normal, ça c'est pas notre rôle de prendre notre argent de retraite pour faire le travail qui revient à un État plus responsable, qui est comptable devant sa population.
Alors, l'ascendant Guindo, vous êtes conseiller technique au ministère des Mines. Faut-il revoir aujourd'hui le statut des orpailleurs?
Je crois que c'est une question très très pertinente. pour une bonne cohabitation, pour tirer le maximum de profit de cette activité, je crois qu'il y a lieu de revoir les choses. Nous nous posons la question, est-ce qu'on n'a pas transféré une compétence plus tôt qu'il ne devait l'être?
C'est-à-dire?
Je me pose cette question. Est-ce que du fait de transférer vraiment l'activité d'orpaillage aux communautés locales, est-ce que cela vraiment est judicieux aujourd'hui? Parce
Pourquoi?
Qu'ils n'ont pas
les moyens
humains nécessaires pour gérer cette activité. Il y a une activité, il y a quelque chose qui a été transféré, mais il n'y a pas les moyens humains et financiers qui ont suivi. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui. Nous sommes en train de voir, est-ce que de façon institutionnelle ou réglementaire, on ne peut pas faire des retouches pour quand même qu'il y ait cette cohabitation d'antan et pour que nous puissions tirer le maximum de profit de cette activité d'orpaillage. Car il faut considérer l'orpaillage tout comme l'agriculture, tout comme l'élevage. Mais il faudra l'encadrer, il faudra l'organiser. Sinon, pratiquer de la façon, je crois qu'il n'y aura que des déboires. Monsieur Camara venait de dire tout de suite que nous avons produit 67 tonnes d'or au niveau du commerce extérieur, dont 47 tonnes proviennent de la production industrielle. Donc le reste provient de l'activité artisanale. Mais sur ce qui provient de l'activité artisanale, je crois qu'aucun copec n'a été payé
à l'État.
Donc ça fait une évasion fiscale. Nous voulons mieux organiser. Je crois que 20 tonnes, c'est pratiquement la moitié de 47 tonnes.
Oui.
Ça allait contribuer à la moitié vraiment de ce que les grandes mines donnent. Donc ça permet de maximiser vraiment nos recettes dans le secteur. Si je disais que vraiment l'orpaillage est sorti de son contexte, cela est tout à fait normal que tout évolue. Nous sommes vraiment à l'évolution de la science. Donc l'introduction vraiment, la modernisation, ça gagne tous les secteurs. Mais c'est une activité qui a évolué, mais ne veut pas se conformer vraiment aux règles, aux législations en vigueur. L'évolution qui est rentrée dans l'orpaillage aujourd'hui doit leur pousser à aller chercher des autorisations d'exploitation et non rester comme d'antan on le faisait, comme le chef de village délivrait. On n'est plus dans ce cadre aujourd'hui. Donc c'est par rapport à cela, je dis qu'il y a eu quand même, l'activité est sortie de son cadre. Si M. Camara veut bien, l'activité a évolué.
Alors, c'est aujourd'hui un véritable business que d'exercer l'activité d'orpailleur. Est-ce que l'État a les moyens suffisants aujourd'hui, toujours avec vous, M. Guindo, de maîtriser ce domaine, d'encadrer ce domaine?
C'est là tout le problème. Autant vraiment nous avons des problèmes, des difficultés de suivi au niveau de l'administration minière, autant dans d'autres domaines, il y a des difficultés. Moi, je viens de rentrer d'une mission d'une semaine de Sikasso où j'étais allé sensibiliser tous les acteurs. Les acteurs, c'est les collectivités locales, c'est les orpailleurs, c'est l'administration. Donc, j'étais passé donner quand même, faire passer un message par rapport à la bonne pratique dans l'orpaillage. Je crois que nous, quand j'étais à la DNGM, nous avons toujours établi des plans, des programmes, des plans d'action. Comme il a dit vraiment, on dit qu'il faudra anticiper tout. Il faudra avoir une idée de prospective. Nous avons organisé en 1994 le séminaire sur l'orpaillage. Ce jour, nous nous sommes fixés vraiment des idées. Nous avons vu que si on ne prenait pas garde, cette activité va changer et ça risquera d'amener des problèmes. Nous nous sommes mis dans une position de prospective et on en est là aujourd'hui. Il n'y a pas eu vraiment de plan élaboré par rapport à cela et tout nous a rattrapés. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'aller en reculant.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause, une courte pause, avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie consacrée aux solutions.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous sommes au dernier virage de cette émission. Cette troisième et dernière partie est consacrée aux solutions à court, moyen et long terme. Nos invités, je vous rappelle que nous parlons de l'orpaillage. L'orpaillage et la loi. Suite aux affrontements derniers de Kangaba qui a fait des morts d'hommes à Kangaba, des morts du côté des forces de l'ordre et également du côté de la population civile. Nos invités pour en parler, Lassana Guindo du ministère des Mines, Sidiki Camara, troisième adjoint au maire de Kangaba et précisément à Nouga. Professeur Abdoulaye Niang également est avec nous, il est économiste et chercheur. Nous aurons donc dans cette troisième partie à débattre des solutions à court, moyen et long terme. Est-il possible aujourd'hui de trouver une solution immédiate à cette situation, professeur Abdoulaye Niang?
Merci, mais avant de partir, le géologue est allé sur mon terrain, il faut que j'aille...
De l'économie?
De l'économie. Et non, l'orpaillage, en réalité, apporte de la stabilité sociale. Vous voyez aujourd'hui la crise sociale? La plupart... des chômeurs sont partis vers les zones minières. Ça apporte l'insécurité, le banditisme aussi. Et puis mieux, quand même eux, les grandes mines, quand tu vois qu'il y a les orpailleurs quelque part, ils savent que sur leur permis, ils savent qu'il y a de l'or là-bas. Donc les premiers chercheurs, gratuits pour la grande mine, ce sont les orpailleurs. Mais mieux, la fiscalité, en fait, on nous a amené des documents, on a remonté des documents récemment, il y a une semaine, où les impôts sont payés par ces orpailleurs-là.
100 000 francs par orpailleur.
Absolument. Donc, vous avez fait beaucoup d'émissions là-dessus maintenant. Les quatre, la mairie, et pourquoi le maire de Tabakoto ne veut pas? Parce qu'il sait qu'il a beaucoup d'argent. Il va avoir 1 milliard avec la grande mine, mais on ne dit jamais combien il a eu avec les orpailleurs. Donc là aussi, ce n'est pas tellement correct. Mais mieux, les comptoirs d'achat qui sont à Bamako ici, ce tort-là, il passe par là. C'est pourquoi aujourd'hui, un autre Guindo, Amidou, disait que ce sont ceux qui sont à Bamako qui ne veulent pas que leur paille s'arrête, parce que pendant 6 mois, si ça s'arrête, les comptoirs vont fermer. Donc, pendant que les comptoirs exportent, ils payent. Donc, c'est pour vous dire
donc
simplement...
Donc, vous pensez que ces comptoirs-là exercent au noir?
Ben, peut-être que c'est ce qu'il dit, mais moi j'ai dit qu'il n'existe pas en ordre, donc ils payent, parce qu'ils sont connus, ils sont immatriculés, on sait là où ils se trouvent. Bon, mais mieux, les grandes mines nous empêchent d'avoir tous les sous-produits qui viennent avec l'or, parce que la transformation de la raffinerie n'est pas au Mali ici. De deux, toutes les plus-values qui sont obtenues par des sociétés comme Randgold, enregistrées sur les marchés financiers internationaux, le Mali n'a rien là-dedans. Donc c'est pour vous dire que réellement, on peut discuter ça ailleurs, mais on ne peut pas laisser passer une telle... Parce qu'il avait dit ça dans un débat il n'y a pas encore 2 ou 3 semaines. Donc on ne peut pas laisser ça passer comme ça.
Maintenant, ce qui est dit.
Maintenant, ce qui est la solution maintenant. Moi, je vous dis, en réalité, il faut retourner, il faut soumettre à contrôle des communautés de localité le droit de surface. Le Canada, qui est le pays le plus progressiste dans le domaine minier, a donné le droit de surface à la population. Et maintenant, les grandes mines négocient le droit de sous-sol avec les communautés de localité. C'est ce que nous voulons que ça soit fait au Mali ici. Pas de couloir. Les gens vont continuer. Une mine sérieuse ne doit plus chercher de l'or à 15 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres, à 50 mètres. On peut laisser ça aux orpailleurs. Et maintenant, ils vont à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres. Aucun orpailleur n'aura la technologie nécessaire s'il ne s'est pas enregistré
à
cette profondeur-là. Donc, une solution durable et pour la paix sociale. Parce qu'il n'y a pas de raison de provoquer le sud du Mali. C'est le poumon de l'économie malienne. Que ce soit le coton et tout, mais ils sont beaucoup plus dans les zones minières. Et nous savons que le Sénégal est tout prêt avec la Casamance. Le problème de la Casamance. Nous savons que la Côte d'Ivoire aussi avait le problème... Le problème de son nord. Donc, il ne faut pas provoquer. Ça fait maintenant plus de 2 ans que nous sommes en train de dire, nous avons fait toutes les études nécessaires et nous informons les différents ministres successifs. Attention, faites attention. Le jour où ça va éclater, ça va pas être bon. Donc, vraiment, en résumé, droit de surface absolu à ces populations-là. Mais là où la mine rentre, mais ils négocient le droit, et nous avons défini un standard de seuil de sécurité économique qui dit simplement que 5% du capital d'investissement sera donné aux communautés de localité. Et la communauté de localité maintenant contient Abdoulaye Niang, qui est parti à l'école et qui sait que ça existe au Canada. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que la communauté de localité sont les villageois. Mais nous sommes tous des villageois. Mais parce que simplement, nous sommes de la diaspora. Et nous sommes de la diaspora intellectuelle et de la diaspora migrante. Donc, ce n'est plus comme avant. Si on ne fait pas attention, le détonateur véritable pour le Mali, c'est les trois régions sud-ouest du Mali.
Monsieur le maire, les solutions.
Bon, merci, mais moi, je voulais bondir un peu sur un point de
Ablagnan.
C'est-à-dire que quand on dit que l'État perd, en réalité, l'État ne perd pas. Seulement, c'est l'État qui ne joue pas son rôle d'arbitre régulateur. Vous prenez par exemple, vous savez que ce que je vais appeler la corruption rampante, hein, même si c'est difficile à prouver, et ça se passe au vu et au su de tout le monde. Hein, au vu et au su de tout le monde. Il y a des intermédiaires qui passent pour enlever des permis au Mali, et puis après ils vont céder à des prix d'or. Voilà, il y a tout un circuit que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui doit faire l'objet d'un autre problème. L'implantation aussi des sociétés minières n'a pas d'impact sur la population locale. Allez-y voir par quelques rares fois. Il n'y a pas une société ici qui peut dire « j'ai construit des routes, j'ai construit des écoles, ou j'ai construit des églises ou des mosquées. »
Mais les sociétés minières se défendent en disant « nous payons des taxes à l'État qui ne sont peut-être pas investies
localement. » Non, j'arrive. Vous savez, comparaison n'est pas raison. Vous prenez l'histoire du Marikana, au Johannesburg, dans le KwaZulu-Natal. Vous savez qu'est-ce qui a amené? Parce que quand ça devient trop, ça va atteindre l'apogée. Et en atteignant l'apogée, on ne sait pas comment le pesanteur va descendre. Et vous avez suivi, il n'y a même pas 10 jours. Et c'est que le gouvernement sud-africain était obligé. L'enquête a fait tomber combien de têtes? Parce qu'elle était impartiale. Je dis bien impartiale. Impartiale. Il y avait même un baron de l'ANC qui a payé ses frais. Je dis bien un baron de l'ANC. Ça, c'est d'un. De deux, prenez le Botswana tout près. Le Botswana n'est pas tellement loin.
Est-ce que vous pensez que le Mali est arrivé à ce point?
Non, je vais vous dire. Vous savez que le Mali est un pays de l'Itterland comme le Botswana. Non, j'arrive. Le Mali est un pays de l'Itterland comme le Botswana. Mais allez-y voir le développement amorcé par ces gens-là. Il suffit seulement que des lois vraiment... et que je dirais des lois de souveraineté nationale soient respectées par tout le monde. Les sociétés minières, là, vous savez que les impôts qu'ils payent, allez-y voir le flux extérieur. Je dis bien, voyez d'abord le flux extérieur. Voyez seulement la plus-value que ces gens-là gagnent. Les comptoirs, comme l'a dit professeur Nyang, moi je prenais même le terme approprié, c'est des comptoirs qui sont agréés. Personne ne peut ouvrir un comptoir si vous n'avez pas d'agrément. Un agrément, ça veut dire quoi? Vous êtes autorisé par une autorité. Et ça, j'en pense. Prenez au bas mot une autorisation d'orpaillage qui fait au minimum 100 000 francs. Et un carnet d'orpaillage, ça fait 5 millions. Vous voyez que cette corruption rampante, ces sociétés minières préfèrent appeler le maire pour te donner 10 millions ou 5 millions.
Est-ce que ça a été votre cas?
Je ne dirai pas. Mais dans tous les cas, je suis libre avec ma conscience. Quand je dis que je suis libre avec ma conscience...
Il se bat toujours aux côtés des pays.
Voilà.
Alors, Lassana Guindo, vous êtes conseiller technique au ministère des Mines. Vu les derniers événements de Kangaba, cette mesure visant à stopper l'exploitation durant une période de 6 mois sera-t-elle acceptée et appliquée par les orpailleurs?
Merci beaucoup. Monsieur Camara a parlé d'un pays exemplaire, le Botswana, par rapport à son diamant, par rapport à son secteur minier. Nous sommes conscients vraiment de ce cas. Nous avons, lors de la lecture même de notre code minier, nous avons effectué des missions au Botswana. Notre code minier aujourd'hui n'est pas assez loin vraiment de celui du Botswana. Je crois que c'est un pays où il y a la bonne gouvernance. Je crois que nous devrons insister également sur la bonne gouvernance, qui est vraiment un cas général. Il ne sert à rien d'avoir vraiment des recettes qui sont générées par le secteur quand il n'y a pas une bonne gouvernance. Donc c'est cette petite parenthèse que je voulais faire.
Mais sauf une motion, M. Guido, sauf qu'il y a une petite différence entre le code minier botswanais et le code minier malien.
Si.
La seule différence qui s'essuie là, comme l'a dit le professeur, c'est que le droit de terre a été toujours préservé, même dans le code botswanais, aux populations autochtones.
Ok, je vous remercie. Okay.
Voilà.
Merci. Donc par rapport aux solutions... Je crois qu'au niveau du département des mines, nous sommes conscients vraiment de cette problématique. Car c'est une problématique aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de solution, je crois qu'il n'y aura pas de développement. Et nous avons vraiment des plans que nous avons élaborés par rapport au développement du secteur. à court terme, à moyen terme et à très long terme. À court terme, c'est de donner, comme la loi le dit, vraiment de donner des endroits aux orpailleurs pour qu'ils puissent travailler, ne serait-ce que vraiment pour faciliter la cohabitation entre les deux branches d'activité. À moyen terme, c'est quoi? C'est que l'État même va s'investir à former même ses orpailleurs. Au Burkina, les orpailleurs ont été formés dans d'autres technologies, dans d'autres méthodes vraiment où ils, pour améliorer vraiment la productivité dans le secteur. Donc, à moyen terme, nous prévoyons vraiment de former des orpailleurs, de les encadrer, de les organiser. D'ailleurs, il y a un forum qui est prévu en fin août où tous les acteurs, M. Niang, M. Kamara, ils seront tous là vraiment, on va discuter où quelle est la solution appropriée vraiment pour l'orpaillage, pour le développement de l'orpaillage au Mali. Solution à long terme maintenant. Il faudrait maintenant que nous intégrons même dans notre politique minière l'activité artisanale. Je crois que nous n'avons pas eu assez de vision vraiment pour la petite mine et vraiment pour l'activité artisanale. Je citerai l'exemple de la Tanzanie où il y a plusieurs petites mines alignées qui donnent vraiment la production de quelques grandes mines. Nous avons axé vraiment notre politique de développement minière sur vraiment les grandes mines. Et nous sommes rattrapés aujourd'hui par l'histoire. Il y a cette situation à revoir aujourd'hui. Et pourquoi ne pas aller voir la réglementation et même le niveau institutionnel pour que vraiment cette activité rehausse et vraiment tire le maximum des profits.
Alors, monsieur Guindo, aujourd'hui, les associations comme Djogoni Maya, dont fait partie Abdoulaye Niang, qui est également économiste et chercheur, est-ce que les recommandations de ces associations-là sont prises en compte par le département des mines?
Au département des mines, nous sommes très, très ouverts. Nous intégrons vraiment les recommandations de tous les acteurs. Mais, ne serait-ce que vraiment de son impact sur l'activité. Niang, je l'ai invité personnellement à participer vraiment aux journées minières. Ça, c'était, nous voulons avoir vraiment de son expérience par rapport à beaucoup de choses. Donc vraiment, nous tenons compte vraiment des recommandations vraiment de tous les acteurs. Vous avez également parlé vraiment de la suspension de l'activité. Donc il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé par le ministre des Mines, le ministre de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Environnement, qui va du 15 mai au 30 octobre.
C'est surtout le territoire national?
C'est surtout le territoire national où il y a l'activité d'orpaillage. Nous l'avons fait parce que l'hivernage correspond à une période où vraiment les risques d'effondrement sont très très élevés. Nous avons des statistiques vraiment
d'effondrement. Est-ce que vous menez des campagnes dans ce sens?
Je rentre vraiment de la région de Sikasso par rapport à une mission de sensibilisation, par rapport à la suspension de l'orpaillage, pendant vraiment l'hivernage.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs.
Il faut mourir de faim. Il ne faut pas mourir de faim. Il faut mourir d'écoulement, mais pas de faim.
Merci beaucoup. Ce qui est entendu. Alors, nous allons en rester là. Malheureusement, nous n'avons plus de temps.
Une seule minute, je voulais juste donner une dernière solution.
Nous n'avons plus de temps,
monsieur le maire. Moi, j'allais demander plutôt au ministère. Il faudrait comment, dans l'immédiat, qu'on essaie d'élaborer un programme d'appui à l'orpaillage.
Merci beaucoup.
Ça, c'est ma solution.
Nous sommes donc à la fin de cette émission des affrontements entre les forces de l'ordre et les orpailleurs de Kangaba auraient fait des morts la semaine dernière, des morts des deux côtés, côté gendarme autant que côté civil, population civile. Kangaba est une ville située à 85 km de Bamako. Pour l'heure, les motifs de ces violences restent assez flous. Certains responsables avancent des mesures interdisant l'orpaillage sur 6 mois. Alors, c'est donc tout pour cette émission. Nous étions en train de parler de l'orpaillage et la loi. Voici les différents axes de ce débat, le point de la situation, le statut des orpailleurs, la solution court, moyen et long terme. Nous étions avec Lassana Guindo du ministère des Mines et Sidiki Kamara, troisième adjoint au maire de Kangaba et de Nouga. Nous avouions également le professeur Abdoulaye Niang, économiste, chercheur. Je suis Famoussa Sidibé. Petting Diara était à la mise en onde. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.